Bonjour à tous et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous poursuivons notre exploration de l'économie en proverbes. Aujourd'hui, les politiques pour les pauvres sont-elles de pauvres politiques ?
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Il y a près de 2 ans, le chef de l'État dévoilait son plan d'action contre la pauvreté. Objectif, éradiquer la grande misère en une génération. Mais l'épidémie de coronavirus est passée par là et ce sont des milliers de Français qui ont basculé dans la précarité. Près d'1 milliard d'euros a été débloqué pendant la crise en faveur des plus démunis. Une aide financière qui nous interroge sur l'efficacité des politiques ciblées de lutte contre la pauvreté. Sont-elles, comme le dit l'adage, de pauvres politiques ? C'est la question qui va nous occuper aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure solidaire d'Entendez-vous l'écho. Pour parler des stratégies contre la pauvreté, 2 invités avec nous à distance. Bonjour Serge Pogam.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Et bonjour Anne Lambert.
Bonjour.
Vous êtes également sociologue, chargé de recherche à l'Institut national d'études démographiques en charge du logement et des inégalités spatiales. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et d'abord, comment définir la pauvreté ? Qui doit être considéré comme pauvre et selon quels critères ? Ce sont les questions auxquelles le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel a tenté de répondre. En 1907, il publie un ouvrage intitulé « Les pauvres, extraits ».
Les pauvres, en tant que catégorie sociale, ne sont pas ceux qui souffrent de manque et de privations spécifiques, mais ceux qui reçoivent assistance ou devraient la recevoir selon les normes sociales. Par conséquent, la pauvreté ne peut, dans ce sens, être définie comme un état quantitatif en elle-même, mais seulement par rapport à la réaction sociale qui résulte d'une situation spécifique. Le fait que quelqu'un soit pauvre ne signifie pas encore qu'il appartienne à la catégorie des pauvres. Il peut être un pauvre commerçant, un pauvre artiste ou un pauvre employé, mais il reste situé dans une catégorie définie par une activité spécifique ou une position. C'est à partir du moment où ils sont assistés, peut-être même lorsque leur situation pourrait normalement donner droit à l'assistance, même si elle n'a pas encore été octroyée, qu'ils deviennent partie d'un groupe caractérisé par la pauvreté. Ce groupe ne reste pas unifié par l'interaction entre ses membres, mais par l'attitude collective que la société comme totalité adopte à son égard.
Serge Pogam, que vous inspire ce texte de Georg Simmel ? En quoi le sociologue allemand apporte-t-il une contribution déterminante à la réflexion sur la pauvreté ?
Alors, c'est une référence très importante pour la sociologie de la pauvreté, aussi pour toutes les sciences sociales qui ont essayé d'interpréter ce phénomène de la pauvreté. Il faut rappeler que Simmel parle de la pauvreté au début du siècle, à un moment où les assurances sociales jouent un rôle majeur dans la société allemande de son époque. C'est une société salariale qui se constitue progressivement, et donc on voit que la grande majorité de la population qui travaille est couverte par justement ces assurances, et c'est le salariat qui s'étend de plus en plus. Et Simmel remarque qu'il y a une population qui justement n'entre pas dans ce salariat, qui est en marge de ce salariat, qui se réduit, qui n'est pas très importante et que l'on ne traite pas comme on traite les autres catégories sociales, à partir donc d'une mutualisation des risques, mais à partir de mécanismes qui relèvent de l'assistance. Et il remarque donc que ce qui définit prioritairement la catégorie des pauvres, ce n'est pas une profession, c'est tout simplement le fait d'être dépendant justement de ce statut qui relève donc de l'aide que les pouvoirs publics et que les collectivités apportent à cet ensemble social qu'on va appeler les pauvres. Et donc il y a une institutionnalisation de la pauvreté à partir de ces mécanismes d'assistance qui se développent à partir de ce moment-là. Et Simmel se situe vraiment à ce moment où on fait la distinction entre le mécanisme de protection sociale qui se veut généralisée et cette frange qui est appelée à être résiduelle, qu'on va appeler l'assistance et les assistés.
Anne Lambert, qu'est-ce que vous pensez de cette définition de la pauvreté est définie comme pauvre celui qui reçoit une assistance de l'État ?
Effectivement, je partage l'analyse que livre Serge Pogam, cette définition relationnelle et institutionnelle de la pauvreté. permet d'insister sur le fait que c'est pas un état naturel lié à la naissance, etc., mais que la définition et le statut de pauvre est lié, bien sûr, à la société dans laquelle on vit et à la manière dont on prend en charge ou non cette pauvreté. Ce qu'on observe, c'est évidemment aujourd'hui toutes les enjeux sur la définition monétaire de la pauvreté comprennent le seuil de 40, 50 ou 60% du revenu médian ne suffit pas à comprendre et à saisir ce qu'est la pauvreté aujourd'hui, en tout cas dans la société contemporaine, dans les pays riches et en France en particulier.
Ça ne suffit pas, mais ça permet d'avoir une première idée. Selon l'INSEE, par exemple, il y a 14% de la population française qui peut être considérée comme pauvre, Anne Lambert.
Oui, tout à fait. C'est le pouvoir objectivant de la statistique. On a besoin de chiffres, évidemment, pour objectiver ces difficultés de conditions de vie et les écarts de niveau de vie en France. Et ces chiffres sont produits par les appareils statistiques, l'INSEE, l'INED ou d'autres, sont nécessaires pour recenser les populations, pour administrer, distribuer les aides, évidemment, mais aussi pour contrôler ces populations, en réalité, de plus en plus nombreuses depuis une dizaine d'années. Mais évidemment, cette définition monétaire, en termes de niveau de vie, ne suffit pas. Et aujourd'hui, de plus en plus d'instituts de recherche, mais aussi d'organes de réflexion, proposent des définitions plus larges qui prennent en compte les conditions de vie, avec des scores d'exclusion selon différents types de biens desquels on est exclu, mais aussi une définition tout à fait intéressante qui est celle des budgets de référence, c'est-à-dire qui répond à la question de quels biens et services minimaux un individu a besoin aujourd'hui pour participer effectivement à la vie sociale. Et là, on voit qu'on sort d'une définition statistique proprement dite et économique de la pauvreté, pour prendre en compte, en réalité, ce qu'on appelle l'exclusion, enfin, ou l'inclusion sociale. Et ça nous laisse voir, en réalité, toute une frange de la population qui se situe entre le seuil de l'INSEE, le seuil de 60% du revenu médian, qui est celui de l'Europe, maintenant, d'Eurostat, et le niveau de vie médian en France, c'est-à-dire le niveau de vie qui sépare la moitié de la population et qui s'établit aujourd'hui à peu près 1730 euros par mois et par unité de consommation. Et ce qu'on voit effectivement, c'est que ces méthodes d'estimation des budgets de référence, mais il y a toute une frange de la population qui n'est pas pauvre au sens statistique, au sens de l'appareil public, mais qui se trouve exclue d'un certain nombre de biens et de consommations, que ça soit l'habillement, les soins corporels, l'hygiène ou encore même le fait de partir en vacances.
D'où la nécessité de politique de lutte contre la pauvreté. À quand remonte cette idée, Serge Pogam, selon laquelle il revient à la puissance publique de mettre en place ces stratégies-là?
Elles sont très anciennes, mais on peut dire qu'elles se sont développées aussi dans le cadre d'un état social fort. Il y a eu tout un débat au 19e siècle pour savoir qui devait venir en aide en priorité aux personnes jugées en situation de pauvreté. On a considéré que c'était aussi bien donc les pouvoirs publics que les organismes caritatifs, la bienfaisance privée comme on l'appelait à l'époque. Et on opposait ainsi la bienfaisance publique et la bienfaisance privée. Et des auteurs comme Tocqueville par exemple disaient que il était préférable de développer avant tout la bienfaisance privée, car si on allait vers la bienfaisance publique généralisée, on risquait effectivement d'entretenir une catégorie de pauvres qui allait dépendre lourdement de la société dans son ensemble. Et il préférait une relation interpersonnelle entre les pauvres et les donateurs, les personnes privées ou les associations. Alors, c'est bien sûr extrêmement discutable, mais vous voyez que depuis le 19e siècle, on a tout à fait ce débat, cette tension entre le privé et le public. Mais on voit très très bien que les mécanismes institutionnels de prise en charge de la pauvreté se sont développés avec l'État-providence tout au long du XXe siècle, jusqu'à la création du revenu minimum d'insertion en 1988, le 1er décembre 1988.
Mais les premières politiques en tant que telles, Serge Pogam, apparaissent seulement à la fin du XIXe siècle.
Alors oui, il y a toute une série de lois à la fin du XIXe siècle qui vont effectivement concerner des catégories spécifiques de pauvres que l'on identifie comme en danger ou qu'il faut absolument prendre en compte en raison des particularités de leur situation.
Donc, les malades privés de ressources ou les enfants abandonnés, par exemple.
C'est les enfants abandonnés, effectivement. Il y a un certain nombre de catégories comme ça qui vont être définies progressivement. Et on a en France cette tradition que l'on peut remarquer qui est de développer une approche plutôt catégorielle de la pauvreté. On définit finalement des catégories de récipiendaire de l'assistance publique. Et c'est tous ces mécanismes-là qui sont discutables et qui pourraient, d'une certaine manière, aboutir au constat que ces politiques pour les pauvres sont en quelque sorte aussi de pauvres politiques. Et je dirais que Zimmel lui-même avait tout à fait perçu cette limite. Il disait d'ailleurs que l'assistance se fonde sur la structure sociale, quelle qu'elle soit. Elle est en contradiction totale avec toute aspiration socialiste et communiste qui abolirait une telle structure sociale. Et il disait même que le but de l'assistance est précisément de mitiger certaines manifestations extrêmes de différenciation sociale afin que la structure sociale puisse continuer à se fonder sur cette différenciation. Et il disait même qu'il n'y a aucune raison d'aider le pauvre plus que ne le demande le maintien du statu quo social. Donc c'est bien de cette idée que c'est, je dirais, presque une critique qu'on pourrait dire de gauche de l'assistance, au sens où l'assistance ne suffit pas en elle-même à réduire fondamentalement les inégalités, parce que on risque de n'apporter que des aides relativement modestes à des catégories de la population qui sont en difficulté, mais cela ne transforme pas la société dans son ensemble.
C'est intéressant ce que vous dites, Serge Pogam, effectivement, cette idée que la solidarité n'a pas pour but de transformer les structures sociales, mais plutôt de s'accommoder au mieux des inégalités. C'est là qu'on voit que finalement l'assistance est un facteur d'équilibre et de cohésion de la société, Anne Lambert.
Oui, effectivement, les sociétés, notamment riches, ont besoin d'un volant de pauvreté, de pauvres, en fait, pour établir et maintenir l'ordre social. Toute la question est quel est ce seuil de population acceptable, et les figures de la pauvreté qui deviennent intolérables aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles des années 50 ou 60, où la pauvreté, la grande pauvreté, c'était effectivement les personnes âgées avant les retraites, hein, ou les personnes handicapées, etc. Aujourd'hui, on voit émerger des figures nouvelles de la pauvreté, enfin nouvelles malheureusement, elles ont déjà 20 ou 30 ans, mais des femmes monoparentales, des jeunes actifs en emploi, etc.
Alors on va y venir, mais Anne Lambert, simplement pour bien comprendre pourquoi une société a besoin finalement qu'une frange de pauvres subsiste, si je puis dire, ou il faut peut-être revenir aux travaux du sociologue américain Herbert Gans, qui explique que les sociétés ont besoin de gens qui acceptent des emplois dont personne ne veut.
Alors, il y a une division du travail, effectivement, nationale et internationale, qui veut que, effectivement, il y ait des populations peu qualifiées, qui restent peu rémunérées. Mais là, la définition de la rémunération, et on l'a vu avec les travailleurs en première ligne du confinement, elle fait l'objet de débats aujourd'hui sur le niveau acceptable de cette rémunération. En réalité, je crois que c'est l'État et les institutions qui ont besoin de pauvres, d'un volant de pauvreté, pour asseoir aussi quelque part leur pouvoir d'une manière symbolique et matérielle. Il y a un sociologue argentin qui a travaillé sur les pauvres dans les grandes métropoles, qui s'appelle Javier Oyero, et qui dit « être pauvre, c'est attendre ». Et être pauvre, c'est attendre, ça veut dire que l'État, le pouvoir central, assoit en fait son autorité, son pouvoir sur les populations en faisant patienter ces populations, alors aux différents guichets sociaux, allocations, etc., parce que ça leur permet d'une part de modérer, de différer l'octroi des prestations de services, mais aussi de modérer les revendications sociales et politiques dont pourraient être porteuses ces populations. Et c'est vrai que les enquêtes en France et dans d'autres États, bien sûr, où les systèmes de mécanismes de protection collective sont pas forcément aussi avancés, on voit hein, les populations pauvres parler souvent de l'attente au guichet. Tu viens ici, mais tu ne sais jamais quand tu vas repartir. Et donc, se rendre dans les guichets, attendre, c'est effectivement montrer que notre temps ne compte pas comme celui des autres, qu'on est dépendant de l'État central, et que quand on touche une allocation fournie par l'impôt, fournie par les pouvoirs publics, on est redevable quelque part de cet argent, et on est quelque part aussi un peu plus docile.
En 1902, l'écrivain américain Jack London décide de vivre pendant 6 semaines dans le quartier pauvre de l'East End à Londres. Il en tirera un livre magnifique, Le peuple des abîmes. On en écoute un extrait.
Pendant la nuit, on m'avait parlé d'un endroit du côté du Surrey où l'armée du salut, tous les dimanches matins, offrait un petit déjeuner aux pouilleux de mon espèce. En fait, les gens qui portent la bannière sont réellement des mal lavés, des pouilleux au petit matin, car à moins qu'il ne pleuve, l'eau se fait très rare. C'était la soupe populaire, la mangeoire comme on dit en argot, c'est-à-dire un endroit où l'on peut obtenir un repas gratuit. Il y avait déjà une foule bigarrée de pauvres diables exténués qui avaient passé toute la nuit sous la pluie. La misère, vraiment noire. Des vieux, des jeunes, toutes sortes d'hommes et d'enfants. Certains dormaient presque debout. Une demi-douzaine s'était allongée sur les escaliers de pierre dans des postures très pénibles. Tous dormaient. et la peau de leur corps toute rouge apparaissait à travers les trous et les déchirures de leurs haillons. À 7h30, la petite porte s'ouvrit et un soldat de l'armée du salut passa la tête pour nous dire « Vous n'êtes pas un peu cinglé de bloquer le passage comme ça, hein ? Ceux qui ont des tickets, vous pouvez entrer maintenant. Les autres, revenez à 9h. » Oh, ce déjeuner ! Encore 1h30 à l'attendre, jusqu'à 9h.
Quand on entend ce texte de Jack London, difficile de ne pas penser aux longues files d'attente devant les points de distribution d'aide alimentaire pendant le confinement. Alors évidemment, à un siècle d'écart, il y a des différences, mais il y a aussi des similarités, Serge Pogam.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut justement essayer de se mettre à la place des personnes qui sont inscrites dans ces files d'attente, qui attendent que l'on puisse leur apporter une aide, parfois une aide relativement modique. Et ce sont ces expériences vécues qui sont importantes de prendre en compte. Et ce qui me semble aller plutôt dans le sens de ce statut dévalorisé que l'on crée à travers ces aides d'assistance, c'est justement le fait que beaucoup d'entre elles voient à travers ces mécanismes de prise en charge le fait qu'on les considère, qu'on les dévalorise en quelque sorte, qu'on les traite comme une sous-classe, comme une sous-strate de la société. Et c'est vécu comme une humiliation, comme une sorte de honte sociale d'être ainsi maltraité par justement cette société qui, à travers ses mécanismes de prise en charge, souhaite venir en aide aux plus défavorisés. Alors, il ne faut pas non plus, malgré tout, tomber dans la critique de l'assistance que l'on pourrait qualifier, je dirais, en simplifiant, de droite. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la critique de gauche, qui est proche de celle que posait Simmel dans son texte du début du siècle. Mais on peut avoir aussi une critique de l'assistance qui relève plutôt d'une conception qui enferme les pauvres dans une sous-classe, dans une classe de personnes qui ne font pas d'efforts pour s'en sortir, qui sont des personnes paresseuses. Et donc, il y aurait en quelque sorte un discours, je dirais, très critique des personnes elles-mêmes que l'on aide à travers tous ces mécanismes de l'assistance. Et on a vu ces dernières années, y compris en France, développer tout un discours assez critique à l'égard de ce qu'on a appelé l'assistanat. C'est-à-dire qu'on va considérer que justement l'assistance va contribuer à entretenir les plus paresseux à se contenter de cette assistance, alors que ça contraste profondément avec le malaise que ressentent beaucoup de pauvres justement quand elles sont contraintes de solliciter l'aide publique pour pouvoir survivre au quotidien.
Et là encore, est-ce qu'on ne retrouve pas cette citation qui nous intéresse aujourd'hui et dont on ne connaît pas vraiment l'origine ? Les politiques pour les pauvres sont de pauvres politiques, Anne Lambert, avec cette idée d'une stigmatisation très forte ?
Oui, parce que effectivement, la citation que nous venons d'entendre en fait renvoie au fait que l'attente, elle est imposée aux plus pauvres et elle est visible à travers les files d'attente, à la fois dans les guichets privés, religieux, des groupes de charité, de solidarité, mais aussi de plus en plus dans les guichets sociaux, au CAF, etc. Et donc quelque part, elle est maintenue visible. Et faire la queue là, c'est s'exposer pour les populations pauvres au regard des autres, rendre public le fait qu'on dépend de la solidarité, qu'elle soit public ou privé. Ce que je voulais dire, ajouter en complément au propos de Serge Pogam, c'est effectivement que cette question de la culture de la pauvreté, elle a été traitée dès les années 80 aux États-Unis par un grand sociologue, Wilson, qui a travaillé sur les ghettos noirs et qui mettait en garde, et en réalité je crois que son travail a été un peu parfois mal interprété, qui mettait en garde contre l'interprétation d'une culture de la pauvreté ou d'une trappe à pauvreté qui fait que l'assistance, la solidarité qu'on donne ou qu'on octroie aux populations pauvres contribuent à les maintenir dans la pauvreté parce que ces populations en retour ne feraient plus d'efforts pour s'insérer, trouver un emploi, etc. Ce qu'on voit en fait plutôt, c'est que l'état durable de privation d'un certain nombre de biens matériels et de services comme l'éducation, etc., crée les conditions d'une socialisation défavorable qui éloigne de plus en plus et petit à petit, de manière cumulative, d'un ensemble d'institutions qui sont nécessaires à l'insertion des populations. Et donc c'est plutôt par le biais de la socialisation, progressivement, l'horizon d'attente, l'espoir, etc., de ces populations est réduit petit à petit. Mais la culture de la pauvreté, elle ne vient pas du fait, effectivement, d'aller chercher un repas à une association de charité, etc.
Alors ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, beaucoup de progrès ont été effectués dans la lutte contre la pauvreté, avec notamment la création du système de protection sociale français au sortir de la Seconde Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un moment évidemment déterminant, Serge Pogam, parce que c'est un système qui consacre le principe d'universalité.
Oui, et c'est ça qui est, me semble-t-il, important de rappeler, parce que effectivement, on a constitué une société salariale dans laquelle la protection sociale était généralisée, mais aussi on a investi dans des services publics que l'on a voulu de qualité et ouverts à l'ensemble de la population. En quelque sorte, le principe de la protection sociale, c'est de la mutualisation des risques pour l'ensemble de la société. Donc, on ne traite pas des pauvres, on traite de la société dans sa globalité. Et donc, par ce traitement global, par cette mutualisation des risques, par cette couverture sociale généralisée, par la qualité de ces services publics, on mène en fait, sans le dire, une politique préventive de la pauvreté, car on évite effectivement que les personnes sortent du filet de la protection sociale. Et par ce filet, justement, on est en mesure de réduire de façon importante la pauvreté. Alors, pendant la période des Trente Glorieuses, il est clair, et Anne Lambert l'a très bien rappelé, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas suffisamment cotisé pour leur retraite, et donc la pauvreté concernait beaucoup les personnes âgées pendant ces années-là. Progressivement, ces systèmes se sont améliorés, le système de retraite s'est amélioré, on a ainsi diminué cette pauvreté des personnes âgées. Elle revient aujourd'hui, il ne faut pas dire que c'est terminé, mais elle revient aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi quand même beaucoup de jeunes qui sont en grande difficulté. Pour lesquelles d'ailleurs, il faut souligner que nous n'avons pas un revenu minimum pour les moins de 25 ans, par exemple.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que la croissance économique des Trente Glorieuses, Anne Lambert, nourrit cet espoir d'éradiquer complètement la pauvreté.
Oui, elle la nourrit, c'est la croissance économique, mais c'est aussi le pacte social fondé dans l'après-guerre sur la mise en place d'un certain nombre de mécanismes de protection collective. Et donc ça va de pair, la croissance économique, la progression des salaires, etc., et les négociations au sein des entreprises. Les écarts de revenus et de rémunération sont beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Et en même temps, la mise en place d'un certain nombre de mesures de protection sociale. Et on le voit, il y a une réduction sur le long terme de la pauvreté de la part de la population pauvre en France dans les années 70 et début 80. Et c'est à partir de là, le ralentissement économique et la montée du chômage de masse qu'on commence à s'inquiéter à nouveau sur ces nouveaux pauvres qui sont cette fois non plus des personnes âgées ou durablement exclues du travail, mais des pauvres qui travaillent ou qui n'arrivent plus à accéder au marché du travail alors qu'ils sont en âge d'être actifs, etc. Et c'est le tournant du RMI en 89.
Avant de venir au RMI, effectivement, un mot sur ces nouveaux pauvres, Serge Pogam, ce sont avant tout les familles monoparentales et les jeunes adultes qui sont touchés par la pauvreté à partir des années 80.
Ah ben, c'est très clair que quand on prend en compte les services d'action sociale qui délivraient donc des aides à l'échelon de la mairie ou des communes ou à l'échelon des départements, avant le RMI, on voyait dans les années 80 une population qui sortait justement des mailles de ce système de protection sociale généralisé. C'était effectivement des jeunes en insertion difficile qui n'avaient aucune aide. C'était des personnes au chômage depuis de longues années et qui n'avaient plus accès à de l'indemnisation. On était dans le chômage de masse, dans un chômage qu'on a appelé d'ailleurs le chômage d'exclusion, le chômage de très très longue durée. Et c'était donc ces personnes qui n'avaient pas finalement de possibilité d'être aidées, si ce n'est sous la forme d'aides que l'on appelait des aides facultatives, extra-légales, qu'on disait aussi à cette époque. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place, à la fin de l'année 1988, le revenu minimum d'insertion, pour éviter que toutes ces personnes sortent des mailles du système de protection sociale et se retrouvent sans possibilité d'être aidées de façon durable.
C'est aussi un moment où l'insécurité va générer une angoisse collective. Il y a la pauvreté et la peur de tomber dans la misère, Anne Pogam.
La peur de tomber dans la pauvreté, elle n'est pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que la France est dans une situation paradoxale en Europe, avec à la fois un système de protection sociale encore très efficace, puisqu'on a un des taux les plus bas en Europe au seuil de 50%, et en même temps la peur de tomber dans la pauvreté ou la peur du déclassement est très élevée. Dans les années 80, au moment de la mise en place du RMI et des débats sur la hausse du chômage de masse, les classes moyennes aujourd'hui, dont on dit qu'elles sont sujettes à cette angoisse de déclassement et de pauvreté, ne sont pas encore inquiètes, comme on peut voir aujourd'hui ces angoisses monter, y compris chez les jeunes, puisque là on a réalisé à l'INED une enquête qui s'appelle Coconel, donc sur les conditions de vie en France et les inégalités, qui montrent que ce sont bien les jeunes qui sont les plus inquiets par la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, par la peur de perdre ses revenus et de devenir pauvre.
Alors pourquoi dit-on que les politiques pour les pauvres sont de pauvres politiques? C'est le dicton que l'on examine ensemble aujourd'hui avec Serge Pogam et Anne Lambert. On continue à en parler dans un instant, mais d'abord Georges Brassens chante « La misère des petits paysans, pauvre Martin » sur France Culture.
Avec une bêche à l'épaule, avec à la lèvre un douchant, avec à la lèvre un douchant, avec à l'âme un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pour gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, de l'aurore jusqu'au couchant, il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, par tous les temps. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant, il retournait le champ des autres, toujours bêchant, toujours bêchant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier champ, de labourer son dernier champ, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant, en faisant vite, en se cachant, et s'y étendit sans rien dire pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps.
C'était Pauvre Martin de Georges Brassens sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Les politiques pour les pauvres sont-elles de pauvres politiques comme le dit l'adage? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui en compagnie de Serge Pogam et d'Anne Lambert. Un mot sur l'origine de ce dicton, Anne Lambert, d'où vient-il?
Il y a en tout cas à cela, il me semble, plusieurs explications. La première, effectivement, c'est que ça a plutôt été pensé au départ comme des politiques en marge des systèmes collectifs de protection sociale et les pauvres ont été plutôt traités comme une catégorie à part, effectivement. Aujourd'hui, le fait que la pauvreté réaugmente massivement, en tout cas depuis une dizaine d'années en France, enfin depuis le milieu des années 2000, montre que on n'est pas dans un épiphénomène en fait, hein, qu'on est à un tournant peut-être historique dans la société française et un tournant politique de nos politiques publiques avec un certain nombre de réformes qui sont engagées et qui vont permettre de définir un petit peu le devenir de notre société à la fois en termes de pauvreté et d'inégalité. Puisqu'on voit, on a beaucoup parlé de pauvreté, le seuil de la pauvreté ne bouge pas, il est relationnel, mais la part des populations pauvres augmente et inversement, le niveau de vie des riches augmente aussi. Et c'est là où je rejoins tout à fait Serge Pogam sur l'idée que les politiques de la pauvreté ont des réponses au niveau local de plus en plus. On parle de territorialisation des aides à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Et en même temps, sans politique structurelle de fond sur le marché de l'emploi et du logement notamment, le marché du logement dans les grandes métropoles, on s'en sortira pas en réalité puisque c'est les conditions d'insertion dans la vie sociale et la vie active qui sont d'abord problématiques.
Serge Pogam, sur l'origine de ce dicton populaire?
Je ne connais pas malheureusement l'origine de cet adage, mais c'est vrai que l'on pourrait très bien associer cet adage à une critique qui proviendrait d'un certain nombre de personnes qui considèrent que les politiques en direction des pauvres sont des politiques qui ne visent finalement qu'à encourager les pauvres à se satisfaire de leur situation, à dépendre des autres pour leur survie et à ne pas faire d'efforts pour s'en sortir elle-même. Et on voit que ce discours finalement est lancinant. Il existe dans la société française depuis au moins une vingtaine d'années maintenant et il revient de façon très régulière pour justement déstabiliser toutes les initiatives qui sont prises pour aider les pauvres. Et ça, cette critique qui est très classique et presque scandaleuse quand on connaît effectivement les populations qui s'adressent aux services d'action sociale, quand on connaît leurs difficultés à survivre au quotidien. Et c'est peut-être justement sous cet angle qu'il faut prendre ce dicton ou cette phrase en soulignant que l'assistance n'est bien sûr pas quelque chose dont on peut se contenter pour aider les pauvres, mais qu'il faut en même temps mettre en place de véritables politiques de prévention.
Et c'est peut-être ce discours dont vous parlez, Serge Pogam, est peut-être lié aux défaillances, aux limites du RMI, le revenu minimum d'insertion. Revenons à l'année 1988, lorsque Michel Rocard prononce un célèbre discours à l'Assemblée nationale. On l'écoute.
L'espoir, c'est aussi permettre à ceux qui sont les plus durement frappés que notre société laisse partir à la dérive, que la marginalité guette d'avoir droit à une deuxième chance. Tel est le sens profond du revenu minimum d'insertion. Instaurer un droit au revenu minimum est une innovation d'une portée considérable. Après la création de la sécurité sociale, puis sa généralisation, après l'instauration du minimum vieillesse et des allocations chômage, c'est là construire le dernier étage, franchir la dernière étape. Qu'on y songe, notre pays a déployé des décennies d'efforts pour lutter contre la pauvreté et contre le dénuement complet. Il entreprend maintenant de les attaquer avec une vigueur nouvelle. Il n'est pas digne de notre passé, ni concevable pour notre avenir, que tant de gens survivent dans la misère et se voient rejetés aux franges d'une société qui les frappe d'exclusion sans appel. La solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite.
Le Premier ministre Michel Rocard, le 29 juin 1988, c'est un discours qui a fait date, Serge Pogam.
C'est un moment très important où il y a un consensus autour de l'aide en direction des pauvres dans la société française. Je pense que la société française à cette époque est consciente qu'il y a une dérive possible, comme le soulignait d'ailleurs Michel Rocard, d'une frange de la population qui n'est plus justement en lien avec le marché du travail ou qui occupe des postes très difficiles et qui justement est en grande difficulté pour survivre au quotidien. Et justement, 9 Français sur 10 dans les sondages de l'époque sont en faveur de la mise en place d'un revenu minimum. Et on va retrouver en quelque sorte une solidarité autour de ce principe de l'intervention, je dirais, en direction des pauvres, mais pas simplement en se contentant de l'assistance, mais en offrant en plus des possibilités justement d'insertion, un accompagnement social pour se réinsérer. Et ça, c'était quand même quelque chose qui était ambitieux parce qu'il s'agissait de faire de l'insertion un impératif national, il s'agissait d'offrir des opportunités d'insertion à toute cette population. Donc on pouvait dire que, bien sûr, il s'agissait de gérer la société salariale, mais l'État était justement à la recherche de moyens supplémentaires pour justement trouver des solutions durables. C'était un projet ambitieux.
Un projet ambitieux qui va se heurter à un certain nombre de limites. Anne Lambert, ce qu'on va constater progressivement, c'est que le RMI fait souvent entrer les travailleurs précaires dans un cercle vicieux.
Effectivement, au départ, c'est un mécanisme généreux d'aide au retour à l'emploi, si on peut dire, avec surtout un certain nombre de mesures d'aide pour l'insertion, la formation, etc. Mais progressivement, on se rend compte que les allocataires du RMI ne sortent pas du dispositif au bout d'un certain nombre d'années attendues. Et au contraire, ils restent de nombreuses années et leur chance de retourner sur le marché du travail s'éloigne. Et ce qui a valu progressivement la mise en place d'une politique d'activation des prestations sociales, notamment des politiques d'insertion, c'est-à-dire les politiques d'insertion cherchent désormais à activer les allocataires, les chômeurs, de manière à les remettre sur le marché du travail. Et ces logiques s'étendent en fait à l'ensemble du champ de l'intervention sociale. En France, avec le passage au RSA expérimental en 2007 et la généralisation de la mesure en 2009. Et là, c'est ce qu'on appelle un petit peu le tournant du workfare, en fait. L'idée, c'est vraiment d'entrer dans des démarches contractuelles de projet, avec un glissement plutôt de la responsabilité collective, d'un mécanisme de protection sociale plutôt collective, vers une responsabilité individuelle. avec la figure du contrat qui s'impose.
On va y venir, Anne Lambert, mais n'allons pas trop vite en besogne. Un dernier mot peut-être sur le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui donnait un rôle important aux collectivités locales. Serge Pogam, ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, ce rôle des associations et des collectivités locales dans la lutte contre la pauvreté.
Oui, absolument, parce que on a considéré que justement à travers le contrat que devaient signer les allocataires, il s'agissait pas simplement d'un engagement des allocataires, mais un engagement de la collectivité dans son ensemble. Donc ça veut dire que la collectivité dans son ensemble était à la recherche de toutes les solutions à l'échelon local, justement, d'insertion à travers des formations, des emplois dans l'économie sociale et solidaire, par exemple. Et il y a eu une inventivité importante pendant toute cette période pour justement créer ce tissu permettant justement d'intégrer le plus possible ces allocataires à la société à travers des formes diverses de participation à l'activité économique et sociale. Et cela a été en tout cas un grand pari que l'on a fait, que l'on a plus ou moins perdu d'ailleurs. Mais je voudrais peut-être souligner que on l'a perdu, je dirais, pas totalement malgré tout, parce que on a peut-être trop rapidement raisonné en termes de sortie par l'emploi classique, alors que il aurait fallu peut-être tenir compte davantage de la possibilité de trouver des solutions d'insertion à travers le réseau associatif, à travers l'économie sociale et solidaire, et on était en chemin justement pour créer peut-être un nouveau secteur de l'activité économique en lien avec des besoins fondamentaux à couvrir, non seulement pour les individus, mais aussi pour la collectivité dans son ensemble.
On a parlé de la rhétorique de la assistanat. Les représentations négatives du pauvre ne datent pas d'hier, comme on peut l'entendre dans cet extrait d'un film bien connu.
C'est 40 francs.
On a le temps, quoi.
Non, à cette heure-là, on devrait être fermé.
Et ceux-là, là?
Ceux-là, ils partent quand ils veulent.
On n'a plus le droit d'attendre des amis.
Ah, vos amis, je les connais. C'est eux qui vous attendent dehors.
Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein?
Et après? Monsieur Paul, voulez-vous aider mon mari à mettre ses colis sur le trottoir?
On n'est pas bon Dieu! Ce machin-là, c'est pas fait pour les pauvres.
Ah, écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille.
Et honnête!
Racaille!
Ah, laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit.
Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, ouais. Je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français.
Regardez, tiens, il bouge même plus. Salaud de pauvre.
Salaud de pauvre, le mépris de Jean Gabin dans La traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Gabin campe un peintre d'une certaine renommée qui accompagne Bourville dans son expédition dans la capitale pour livrer un jambon au marché noir. La scène est restée culte, Serge Pogam.
Oui, c'est un moment important du cinéma français, bien entendu. Mais c'est vrai que ce discours de critique des pauvres, il a toujours existé d'une certaine manière. Mais il y a eu des variations et des cycles où justement il y a plus de compassion, plus de solidarité, et d'autres qui sont des périodes, des cycles justement de repli vers des formes d'accusation, vers des moments où on va insister davantage sur des explications de la pauvreté en termes de paresse plutôt qu'en termes d'injustice. Et donc il y a des variations dans l'histoire que l'on peut repérer comme ça. Au moment du vote de la loi sur le RMI, on est dans une période où justement on va considérer que les pauvres sont avant tout victimes d'une injustice sociale qu'il faut réparer. Mais ça va s'inverser dans les années 2000.
Vous parlez ensuite d'une usure de la compassion.
On va avoir une certaine usure de la compassion et on va retourner, c'est ce que disait Anne Lambert tout de suite, c'est-à-dire on va être dans une période où on va demander aux pauvres de faire davantage d'efforts par eux-mêmes. On va instaurer plutôt des mesures d'activation, on va les obliger finalement à prendre des initiatives par eux-mêmes et sans forcément leur donner toujours les moyens adéquats pour pouvoir justement retrouver une place sur le marché de l'emploi. Donc on va responsabiliser davantage les pauvres en disant que finalement ils sont aussi responsables de leur situation. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très stigmatisant aussi, parce que ceux qui ne s'en sortent pas sont forcément considérés comme des paresseux.
Anne Lambert.
Oui, je rejoins tout à fait Serge Pogam. Il y a un tournant de l'activation des dépenses sociales en France dans les années 2000, qui est plus précoce en Europe, qui commence plutôt en Angleterre dès avant, dans les années 90. En tout cas, le sujet, c'est de demander des preuves des efforts d'insertion plus grandes aux allocataires des minima ou de l'assurance chômage. Et ils doivent apporter la preuve par le biais d'un contrat ou plus d'une contractualisation avec les travailleurs sociaux, les guichets, qui sont en recherche active d'emploi, qui font des efforts d'insertion, etc. Et cette preuve apportée à l'effort d'insertion conditionne le versement, en fait, de la prestation. Et il y a un débat majeur à la fois sur le fondement politique de ce tournant, hein, de l'activation ou de ce qu'on a appelé le workfare, et puis sur la mise en œuvre réelle pour les collectivités ou en tout cas l'échelon local sur lequel porte plus avant cette charge.
Pourquoi est-ce qu'on parle d'activation ?
Parce que c'est un peu la stratégie de retour sur investissement. On active les allocataires pour les faire retourner sur le marché du travail, pour les faire redevenir actifs. Et l'État, en faisant ça, investit en fait, hein, sur des populations dont elle estime qu'elle aura un retour sur investissement. C'est peut-être une traduction un petit peu maladroite d'un terme anglo-saxon, mais qui montre vraiment, voilà, ce tournant à la fois politique dans l'orientation politique de ces dispositifs et en même temps qui change la mise en œuvre, la manière dont on met en œuvre ces contrats d'insertion, etc. Et le débat, c'est que pour une partie des promoteurs de l'activation, ben on va plus vers une responsabilisation individuelle. Et en même temps, il y a une critique importante qui pèse sur cette activation, avec des effets pervers, hein, que l'ensemble de la communauté académique quand même souligne régulièrement, qui est d'une part le risque de contrôle accru sur les modes de vie de ces pauvres, à la fois, les femmes qui veulent divorcer, ou les pauvres, etc., on vérifie que dans les revenus qu'ils touchent, en fait, ils n'ont pas moyen de se payer d'autres choses et qu'ils sont vraiment pauvres en réalité. Et puis, deuxièmement, effectivement, comme le dit Serge Pogam, il y a un effet de stigmatisation très fort pour les personnes qui, en réalité, ne pourront pas travailler à temps plein ou de manière normale, entre guillemets, au sens des politiques de l'emploi sur le marché du travail. Et ces effets pervers sont dénoncés dans ce tournant de l'activation des politiques sociales. Et le troisième point, surtout, c'est le risque de discrimination des populations bénéficiaires des aides, des prestations sociales, puisque l'État-providence s'est construit, s'est édifié contre les politiques de charité privée, c'est-à-dire que les prestations sont plutôt universelles, sont versées sous forme, on va dire, un peu d'anonymat, en tout cas avec un traitement égalitaire des populations. La mise sous condition du versement des prestations, en fait, nécessite l'instruction d'un dossier sur l'allocataire et réintroduit un échelon important, le guichet, l'échelon du guichet, où il y a des entretiens, comme des entretiens un petit peu, si vous voulez, de motivation, d'enquête un petit peu sur la bonne disposition à travailler, à s'insérer des allocataires ou des prestataires.
On entend bien les effets pervers de cette mise sous condition, mais est-ce que elle n'a pas une certaine efficacité? Quel bilan est-ce qu'on peut faire de ce revenu de solidarité active créé en 2009? Est-ce qu'il est parvenu dans une certaine mesure à lutter contre la pauvreté au travail, Serge Pogam?
Je dirais que quand on a mis en place le RSA, il y a eu un retournement de la conjoncture et on était finalement très très proche de la crise de 2008 quand on a formulé le projet. Et donc dans cette période, ça a eu pour effet finalement de laisser beaucoup de personnes en difficulté d'accéder au marché de l'emploi, alors que l'objectif c'était justement de leur permettre de sortir par la possibilité de combiner une activité de travail avec le montant de leur revenu. Et donc on a laisser comme ça beaucoup de personnes sans accompagnement social, parce que qui dit aussi responsabilité ou responsabilisation, c'était aussi de l'incitation. On incitait les pauvres à cumuler leurs revenus avec une reprise partielle d'activité, un petit boulot, quelques heures de travail ici ou là. Et cela, finalement, a créé une distinction très forte entre justement cette population qui se mobilise et qui veut effectivement sortir de la pauvreté par l'accès à un petit boulot, et tout le reste qui n'a pas eu cette possibilité d'accéder à un emploi. Et donc, la conjoncture a desservi fortement le projet de RSA et a conduit d'une façon assez générale, et je fais ce constat là aussi par rapport au RMI, à un abandon important de toutes les actions d'insertion qui étaient menées auparavant et qui s'accompagnaient par une diversification des solutions proposées aux allocataires. Si bien que avant le RSA, on accompagnait davantage, on proposait des formes de formation, des formes de participation même à la vie associative à travers l'économie sociale et solidaire. Et tout cela a été en quelque sorte abandonné au profit d'une incitation assez généralisée qui a eu des effets finalement pas si massifs que ça en termes de retour à l'emploi, même très limités.
Vous l'avez dit, la lutte contre la pauvreté passe par un discours tendant à responsabiliser les plus précaires, une position assumée par Mohamed Sabri, qui est membre de Positive Planète, une association fondée par Jacques Attali. On l'écoute.
Moi, je suis persuadé que, en tout cas, une partie de ceux qui ne trouvent pas d'emploi pourraient trouver une solution au travers de la création d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a effectivement le salariat, mais on voit bien que le salariat est en panne. Et l'idée, c'est de dire à des personnes, bah, écoute, tu as des compétences, tu as éventuellement une expérience que tu pourrais éventuellement mettre à profit et devenir toi-même ton propre patron. Et ça séduit, on le voit très bien dans les quartiers, ça séduit de plus en plus de jeunes et de moins jeunes.
Qu'est-ce que vous voulez dire par le salariat est en panne?
Mais il suffit juste de voir les chiffres du chômage. Là, je prends même pas le national. Nous, sur notre quartier, on est quasiment à 25%. Ça monte juste. Oui, à Clichy-sous-Bois, oui. Donc c'est pour ça que je parle de panne au niveau du salariat. Et nous, ça fait sur Clichy-sous-Bois, nous, ça fait quand même déjà plus de 7 ans qu'on y est. Et on le constate, ça marche. Jacques Attali, il a toujours prôné qu'il ne fallait pas attendre que la solution vienne d'en haut, en quelque sorte. C'est que soi-même, que chaque individu se prenne en main soi-même et se dise, bon, bah, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais me bouger et je vais aller moi-même essayer de créer moi-même mon activité. C'est ça ou rien.
Extrait d'un épisode de la série documentaire diffusée le 5 septembre 2017 sur France Culture. Comment interprétez-vous ce discours qu'on vient d'entendre, Anne Lambert ?
Alors, Jacques Attali n'est pas le premier à le porter. Avant lui, Alain Madelin et bien d'autres, hein, effectivement, ont introduit cette idée que les pauvres ne devaient pas attendre de l'aide d'en haut, mais se prendre en main eux-mêmes. Et voilà, l'idée, c'est quand on veut, on peut. C'est un discours, en réalité, qui se diffuse largement et qui est assez dangereux, puisqu'il fait porter la responsabilité de l'échec de l'insertion socio-économique sur les individus eux-mêmes qui sont en réalité pas du tout également dotés pour faire face au marché du travail, au marché du logement tendu dans les grandes agglomérations, etc. Et ce qui est gênant en fait pour ces micro-entrepreneurs, ces auto-entrepreneurs, hein, le statut de 2009 qu'a créé l'auto-entreprise, qui était tout à fait dans cette mouvance-là, de dire bah, si on n'a pas d'emploi par le salariat, on crée son entreprise et on génère ses propres revenus. En réalité, c'est ce que montrent les travaux de Lirisso et de Sarah Abdelnour en particulier, hein, c'est que c'est souvent du salariat déguisé, mais c'est-à-dire pour les individus qui travaillent dans ces auto-entreprises, c'est une forme d'exclusion du droit du travail, c'est-à-dire d'accès à la formation continue, de cotisation pour la retraite, mais aussi de protection en cas de l'arrêt de l'activité, comme on a pu le voir pendant la crise du coronavirus. Ces auto-entrepreneurs, ces micro-entrepreneurs n'étaient pas du tout protégés par un employeur qui n'existe pas dans ce cas-là. Et donc, ils sont beaucoup plus fragiles et précaires économiquement que les salariés des entreprises qui respectent le droit du travail.
Et pourtant, cette philosophie qui consiste à responsabiliser les bénéficiaires demeure, puisque dans le projet de revenu universel d'activité qui entend fusionner plusieurs aides sociales et qui est proposé par le gouvernement, il y a cette idée de responsabiliser davantage ceux qui reçoivent les aides sociales, Anne Lambert.
Oui, là, je crois qu'on est dans un débat relativement au final politique, au sens même idéologique, hein, de manière de voir la pauvreté et la manière de lutter contre la pauvreté. Il y a un dispositif expérimental qui est tout à fait effrayant en réalité, on en a pas parlé, mais qui mêle l'insertion par l'emploi et le logement, qui s'appelle le programme Émile, engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi, qui a été lancé en 2019 et qui vise à donner un bon aux ménages précaires d'Île-de-France pour qu'ils aillent s'installer dans des villes moyennes où il y a davantage d'opportunités d'emploi et de logement. Et là, on voit qu'on exporte des populations pauvres et précaires dans des villes moyennes dites en déclin, où on a des besoins démographiques, éventuellement des besoins locaux, etc. Mais il me semble que ce sont des mesures plutôt superficielles de traitement contre la pauvreté qui ne visent pas effectivement à éradiquer ou prendre le mal à la racine. Évidemment, ça serait si c'était facile de régler le problème de la pauvreté. Mais en tout cas, on voit que le tournant de l'activation, à la fois au niveau des prestations sociales et au niveau plus largement de la promotion du tous propriétaires, tous entrepreneurs, on s'assure soi-même, on s'aide soi-même, grignote et détruit les mécanismes collectifs de protection sociale qui ont été construits dans l'après-guerre par le CNR, le Conseil national de la Résistance, et plus largement par l'état social dans les années 50-60.
Justement, quel regard est-ce que vous posez, Serge Pogam, sur ce plan pauvreté qui a été lancé en septembre 2018 par le gouvernement actuel, avec cette idée de mettre l'accent sur la prévention?
Je dirais que le discours qu'a tenu, d'ailleurs, c'est assez curieux, en tout cas inhabituel dans l'histoire de nos institutions, que le président de la République lance lui-même ce plan de lutte contre la pauvreté. D'habitude, c'est le ministre chargé ou la ministre chargée de la solidarité qui fait ce type de discours. Et là, il y avait un accent très solidariste, finalement, dans ce discours. Il y avait cette idée qu'il fallait remettre, finalement, la solidarité au cœur de la société à travers l'idée d'une mutualisation des risques. Mais je dirais que quand on regarde finalement derrière le discours que l'on annonce, on voit effectivement que on a plutôt tendance à vouloir responsabiliser davantage les pauvres et parfois au détriment de mesures collectives de prise en charge à travers des structures, notamment d'emploi, d'accès au logement, de services publics. Et j'ai trouvé effectivement que on était dans une perspective idéologique qui était celle principalement de l'activation. Et on ne sort pas de cette logique là aujourd'hui. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce que ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la population dont il s'agit est une population finalement qui est confrontée à de multiples difficultés. Elles sont prises dans un processus de disqualification sociale, mais avec des phases très différentes dans ce processus. Alors, vouloir trouver une solution par l'activation en disant on va les encourager à sortir de la pauvreté, c'est parfois ne pas reconnaître la spécificité de leurs difficultés, le cumul de leurs difficultés réelles à sortir, parfois pour des raisons de santé, parfois pour des raisons d'endettement, parfois pour des raisons d'accès à un logement. Pour toutes ces difficultés, on a tendance à penser qu'il suffit finalement de les inciter à trouver un emploi, d'activer par un accompagnement vers l'emploi pour que tous les problèmes soient résolus immédiatement. Et c'est justement cet amalgame qui est fait de cette population qui me semble ne pas être juste et pas être à la hauteur justement de ce qu'il faudrait mettre en place pour lutter efficacement contre la pauvreté.
Et puis ce qui pose peut-être problème, Anne Lambert, c'est cette approche sectorielle de ce plan pauvreté et non générale.
Alors, je pense que on a une approche sectorielle, mais qui est néanmoins centrée sur la formation des jeunes, l'emploi. Mais on parle peu du logement, qui est dans la population pauvre le principal poste de dépenses budgétaires qui pèse sur le niveau de vie et surtout qui, du coup, exclut de tout un tas d'autres consommations de biens et services qui sont nécessaires à l'insertion dans la vie sociale et dans la société française en particulier. Et je crois que sur le marché du logement, on va trop lentement, voire on rétro-pédale. On a vu le problème de la suppression de 5 euros des APL.
Ce que le ministre du Logement, Julien de Normandie, a annoncé regretter il y a quelque temps.
Oui, bon, on construit pas une politique avec des regrets. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a été mal perçu par les associations, mais qui a un effet immédiat sur les conditions de vie des ménages les plus pauvres. Et puis, ce qui se passe sur le parc d'habitat social, c'est-à-dire on le met en vente hein, aussi. On pense que les locataires du parc d'habitat social, ben, ils devraient pouvoir acheter et que c'est une bonne solution. Ça va dans ce tournant aussi d'activation, responsabilisation. L'État vend son parc pour financer de nouveaux investissements, mais les investissements dans le parc d'habitat social sont à la traîne. Et donc de plus en plus de Français, puis avec la crise, on sait le rôle d'amortisseur du parc HLM, le parc, il n'est pas à la hauteur des difficultés de vie et des difficultés d'emploi de la population française aujourd'hui.
On l'a bien vu avec le rapport qui a été publié la semaine dernière par 6 associations de lutte contre le mal-logement. Leur conclusion, c'est que plus un demandeur de logement social est pauvre, moins il a de chances d'obtenir un logement. C'est tout de même assez inquiétant, Anne Lambert.
C'est inquiétant. On sait que effectivement 70% de la population française est éligible au logement social. Ça ne veut pas dire qu'elle va en faire la demande et qu'elle a besoin d'en faire la demande. Mais de plus en plus de ménages pauvres et surtout de classes populaires stables ou de petites classes moyennes, même de classes moyennes dans les grandes métropoles, ont besoin d'un logement stable avec un contrôle de l'évolution des loyers, des charges pour pouvoir se maintenir à proximité des bassins d'emploi, des écoles, etc. Donc ce problème structurel du logement cher, peu accessible dans les métropoles, encore une fois, c'est pas juste un débat idéologique sur le fait d'habiter en ville plutôt qu'en périurbain ou à la campagne. C'est que l'emploi est massivement concentré dans les métropoles aujourd'hui. Il faut résoudre cette question par le parc d'habitat social, par tout un tas de mesures aussi sur le logement locatif privé ou l'accession à la propriété. Il y a trop de ménages en attente d'un logement social et la crise du coronavirus va complètement accélérer ce rôle d'amortisseur du logement social, hein, comme dans toutes les grandes crises en réalité.
La question du logement est effectivement fondamentale, mais il y a aussi un autre angle mort peut-être de l'aide sociale. C'est ce qui concerne les jeunes de 18 à 25 ans qui ne bénéficient plus de l'aide sociale à l'enfance et pas encore du RSA, Serge Pogam.
Oui, alors c'est un débat que nous avons depuis longtemps déjà. Au moment de la création du RMI, il y a eu des débats et on a considéré effectivement que les jeunes de moins de 25 ans devaient prioritairement encore relever de la solidarité familiale, de l'aide familiale. Et on considérait, je me rappelle de positions d'élus, de responsables politiques qui considéraient que c'était pas bon pour les jeunes de commencer leur vie en étant allocataire d'un dispositif comme celui du RMI. Et on est resté sur cette idée pendant longtemps et aujourd'hui on constate que beaucoup de jeunes, justement, parce qu'ils sont privés d'un revenu minimum, cumulent de nombreuses difficultés. On voit que les jeunes sont aujourd'hui, notamment tous ceux qui ont des difficultés à être aidés par leurs parents qui sont la plupart eux aussi pauvres, ont de nombreuses difficultés à accéder bien sûr à un logement, mais aussi à se stabiliser dans la vie. Ces difficultés sont, on l'a vu, de nombreux témoignages ont été faits, des études ont été réalisées pour montrer que les jeunes ont véritablement un besoin urgent de stabilisation économique, car ils risquent effectivement d'être conduits à une marginalisation beaucoup plus importante. On voit que beaucoup de jeunes risque de devenir sans abri et d'être pris dans une spirale de la marginalisation. Et ça, je pense que le revenu minimum devrait s'imposer, on devrait changer en quelque sorte notre perception sur la catégorie des jeunes et accepter le principe d'universalité des aides et donc ne pas les discriminer, ne pas leur interdire l'accès au revenu minimum.
Alors justement, un dernier mot, on arrive à la toute fin de cette émission. On va finir avec vous, Anne Lambert. Comment faire en sorte que les politiques pour les pauvres ne soient pas de pauvres politiques, puisque c'est l'adage qui nous intéresse aujourd'hui? Est-ce que cela passe par exemple par l'instauration d'un revenu universel?
Il me semble que c'est une piste effectivement qu'on doit creuser et au niveau européen sans doute, une réponse qui soit pas seulement nationale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que renvoyer la lutte contre la pauvreté à la solidarité privée, qu'elle s'établisse au niveau des familles ou au niveau des grandes fondations privées, les fondations Gates, etc., n'est pas du tout une solution, tant en matière de lutte contre les inégalités que d'émancipation de ces jeunes et de ces populations pauvres. Et je crois qu'il y a un économiste, Gabriel Zucman, qui travaille à Berkeley maintenant, qui montre tout à fait, et je le suis sur ce point, qu'il faut complètement réintroduire un débat parlementaire et donc démocratique sur cette fiscalité à la fois du capital et des grandes fortunes pour lutter contre les paradis fiscaux, ce qui permet effectivement de dégager des budgets ensuite nécessaires aux politiques sociales, de protection sociale et de prévention de la lutte contre la pauvreté. Et ça, effectivement, on voit que les fondations aujourd'hui sont très très puissantes, les fondations privées, elles ont toujours existé, les fondations Rockefeller, etc., mais elles reviennent en force, elles sont assises à la tête de fortunes colossales. Et elles définissent les bons pauvres, les mauvais pauvres. Elles définissent quelle population et quelle cause il faut aider, au nord comme au sud. Et ça, c'est soustraire au débat démocratique et parlementaire, c'est-à-dire aux sociétés elles-mêmes, la définition de la lutte contre la pauvreté et de son contrat social. The problem is all inside your
head, she said to me. 50 Ways to Leave Your Lover de Paul Simon, repris par Adrien Moignard et Cyril Aimé. Merci beaucoup Serge Pogam et Anne Lambert de nous avoir accompagnés depuis chez vous tout au long de cette émission et malgré les difficultés techniques. Et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Paloma Soria Brown, Léa Sabourin et Thibaut Affringue. À la réalisation aujourd'hui, Jean-Christophe Francis. À la technique, Inès De Bruyne. Demain, mieux vaut règle que rente, nous décortiquerons cette citation empruntée à Montaigne avec Philippe Dessant, professeur de littérature française à l'université de Chicago, Isabelle Guérin et Martial Poisson. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Excellente journée à l'écoute de France Culture. Of being true, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Slip out the back, check. Make a new plan, stand. Don't need to be cold, boy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, me, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that, and won't you please explain about the 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe that in the morning you'll see the light. And then she kissed me and I realized she was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Slip out the back, Jack. Make a new plan, stay. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, me, and get yourself free. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, me, and get yourself free. Da 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 da
Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-